Après nous être dit la semaine dernière que les écrivains américains n'allaient pas nous remonter le moral, c'était avant le résultat des élections dans ce pays, cette semaine nous nous intéresserons d'abord au débat en France. Le Figaro nous prévient en une, intellectuel, le débat interdit. Et c'est Jacques de Saint-Victor qui réalise le dossier en introduction du livre d'André Perrin, Scène de la vie intellectuelle en France chez l'Artilleur, un éditeur au nom prédestiné, et qui rapporte les principales cabales ou supposées-elles du monde intellectuel en France. C'est le triomphe du discours intimidant, nous dit Jacques de Saint-Victor, empruntant ici une expression à Laurent Fidès, avec son phénomène de meute vigilante et leur cortège de regards outrés qui permettent d'éviter la discussion. Serait-ce donc un procès à sens unique? Non, plutôt une impasse, comme le souligne aussi le critique. La doxa inversée, selon les termes mêmes qu'il emploie, de l'anti-politiquement correct étant largement aussi schématique que celle qu'elle combat. On lira donc avec profit également l'entretien de Sylvain Guggenheim à Paul-François Paoli, dans le même Figaro littéraire. Le premier confiant au second les circonstances de son procès en islamophobie, il a soutenu que les Grecs possédaient d'autres médiateurs de leur savoir que les seuls intellectuels arabe du Moyen-Âge. Il reconnaît quelques erreurs de méthode, mais ce qui surprend, confie-t-il, c'est le phénomène de groupe contre une personne seule. A l'inverse, serait-on tenté de dire, dans une transition un peu simple, Robert Maggiori nous introduit au nouvel opus de Peter Sloterdijk, qui lui participe au débat intellectuel, Après nous le déluge, il s'intitule cet opus et il est publié chez Payot. Un livre aussi épais que les volumes de Sphère, nous dit Maggiori, foisonnant, torrentiel, parfois lyrique, parfois sardonique, porté par une culture impressionnante. Dans cet opus, Sloterdijk condamne la modernité à courte vue. Si l'homme moderne renonce à la tradition et à son apprentissage, dit-il, si ses choix errent dans le vide parce qu'ils ne sont plus adossés à une tradition ni orientés par ce qu'il appelle le centre de sécurité qu'étaient les savoirs et les pratiques conservées de génération en génération, eh bien l'homme moderne ne sera qu'un fugace gestionnaire d'un présent irrémédiablement voué à la chute, recitation, au déménagement permanent d'un provisoire à l'autre. Ce déménagement d'un provisoire à l'autre, c'est peut-être ce qui fait l'intérêt du second roman de Denis Michelis, Le Bon Fils, publié chez Noir sur Blanc, qui avait déjà retenu l'attention de Mathieu Lindon pour Libé des livres, et qui joue en lisière de Kafka sur les rapports conflictuels père-fils. L'un joue les fils outrés, nous dit Éric Loret pour Le Monde des Livres, l'autre les pères excédés, dans un psychodrame aux sutures magnifiques et dont la gêne évoque Robert Walser. Qu'un ami du père arrive, un certain Hans, qui décide de rebaptiser le héros, qui s'appelait Albertin et qui se nommera désormais Constant, et se verra offert par son père à son vieil ami, et le destin du fils rebondit en quelque sorte. Le critique de conclure, la dévoration métaphorique entre parents et enfants s'y éclaire d'une précision économique expliquant l'obsession du, entre guillemets, bon élève et de la réussite sociale, c'est qu'il y a dans le conte et dans notre société plus rien à manger. La famille et sa dérédiction à l'image de la société, on les trouvera encore chez Emmanuel Venet, déjà salué pour son côté décalé, comme on dit aujourd'hui par Éric Chevillard dans Le Monde des Livres. Alain Nicolas de l'Humanité, cette semaine, ou plus exactement de son supplément Le Rendez-vous des Livres, recense pour nous Marché droit tourné en rond, qui aurait pu servir de titre au précédent d'ailleurs, et qui partant d'un enterrement de grand-mère débouche sur, je cite, une réflexion sur le langage, ses pouvoirs hallucinatoires comme ses limites concrètes. Le héros est ainsi fasciné par le Scrabble qui, dit le critique, ravale à l'arrière-plan le sens des mots et le remplace par la valeur des lettres. Deux livres qui semblent aller dans le sens d'un débat littéraire mais aussi intellectuel, sans être plus rassurant pour autant.